est-elle sur les rails?
La réconciliation à ce stade-là est encore au niveau des épieux, parce qu'il est évident que pour toutes les parties, l'étape après l'acquittement et donc le retour du président Laurent Gbagbo, c'est celle de la réconciliation. Alors, cela a été chanté dans tous les camps, mais il y a une réalité face à laquelle aujourd'hui la classe politique ivoirienne, sinon la Côte d'Ivoire se retrouve, c'est qu'il n'existe aucun cadre formel de rencontre, de concertation, parce que pour qu'on aille à la réconciliation, il faut définir le cadre de la réconciliation, il faut définir le contenu, et il faut définir la méthode pour se réconcilier. Et jusqu'à ce jour, il n'existe aucune rencontre entre les trois grands pays. Aujourd'hui, se sont réunis en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'initiative doit venir des agences de l'ONU ou encore de certains pays qui jouent un rôle assez clé en Côte d'Ivoire, de l'initiative de réunir bien sûr ces trois-là autour d'une table, ou encore est-ce que cela doit venir du président de la République? On ne sait pas qui doit faire quoi, qui doit prendre quelle initiative. Et donc, à défaut de pouvoir se rencontrer, de chaque côté, chacun fait des déclarations qui vont plutôt dans le sens de ses intérêts.
D'accord. Alors, Bema Fofana, le pouvoir a certes entrepris des démarches pour le retour de Laurent Gbagbo, mais est-ce que vous voyez l'ex-président comme un adversaire politique ou un partenaire dans la réconciliation?
Moi, je pense qu'on a pas besoin.
Je crois qu'on a quelques soucis de connexion avec... Oui, allez-y.
Moi, je crois que, comme je le dis, on a besoin de partenaires pour la réconciliation. La Côte d'Ivoire appartient à chacun de nous.
Nous allons revenir vers le maire, l'adjoint au maire de Boaké. On a quelques soucis de connexion. Alors, Nyaka... on avait vu un FPI divisé pendant l'absence de Laurent Gbagbo. Vous pensez que son retour va faciliter la réunification de ce parti? Et quel sera, par exemple, le rôle de Afin Gesson, qui dirigeait une aile du FPI?
D'abord, merci Dia pour cette opportunité. Je pense que Afin Gesson, que je l'avais déjà dit sur d'autres plateaux, Afin Gesson s'est trompé. Il a été du mauvais côté de l'histoire. Je n'écoutais pas ceux qui estimaient qu'il était dans la compromission avec le régime ou bien qu'il était corrompu. Mais il s'est trompé parce qu'il n'a pas pensé que l'histoire de l'Afrique était celle-là, celle que nous vivons. C'est le moment du réveil des souverainetés ou de la souveraineté en Afrique. C'est le renouveau du panafricanisme. Il y a une nouvelle conscience collective. C'est au nom de cette conscience collective que les Africains se sont mobilisés partout, les Ivoiriens d'abord, pour que Gbagbo Laurent soit libéré. Donc pour moi, si j'étais proche d'Afin Gesson, c'était de lui suggérer de rencontrer Gbagbo et de lui remettre les documents légaux du parti, parce que voilà, lui-même il a dit que si Gbagbo rentre, il allait lui donner le parti.
Vous pensez c'est un préalable que le FPI se retrouve d'abord pour ensuite aller vers, disons, l'éventuel...
Je ne suis pas de leur parti, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce que comme vous avez posé la question, j'estime que Afi a mal joué, il a perdu. Il doit pouvoir le comprendre et puis s'offrir une certaine sortie, une certaine forme de dignité avant une certaine sortie. C'est ce que je suis en train de proposer.
D'accord.
Mais maintenant, est-ce que parce que Gbagbo est venu, le FPI va être réunifié? Je pense que sa popularité, sa personnalité peuvent régler un certain nombre de problèmes. Mais pour l'instant, quand on voit les relations qu'il y a entre Gbagbo et sa femme, Simone Gbagbo, qui fait partie des membres fondateurs du FPI. Donc le divorce qu'il y a entre eux et puis l'incompréhension sur le plan politique, cela est de nature à créer plus de tensions et de confusion dans le parti. Mais la personnalité de Gbagbo pourrait certainement permettre de transcender ce problème-là.
D'accord. Alors Alexis, beaucoup doutaient d'un retour de Gbagbo, en tout cas de sitôt. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, le régime à non seulement lui livrer un passeport, mais de ne pas s'opposer à son retour?
Oui, vous savez que l'absence de Laurent Gbagbo pesait dans le processus de réconciliation. que tout le monde appelait de son vœu. Et après l'acquittement, il était de son droit de rentrer dans son pays, avec bien sûr l'accord des autorités du pays en ce moment. Donc M. Laurent Gbagbo avait le droit de rentrer, de prendre part au processus de réconciliation. Je rappelle qu'il y a un processus de réconciliation qui était déjà engagé, et c'est du fait de la division entre le FPI, parti Afringuessa, le FPI qu'on appelle Gbagbo Gbagbo, que ce parti ne s'est pas senti pleinement engagé dans le processus de réconciliation. Il y avait un cadre permanent de concertation qu'on appelait le dialogue politique qui était en cours avec le premier ministre Amadou Gon, le défunt premier ministre Amadou Gon, ensuite continué par son successeur aussi décédé, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Tout ça, mais on a vu que la partie Gor, qu'on appelait Gor, s'était mise en retrait, faisant de la sortie de M. Gbagbo une condition pour rentrer dans le processus. Donc M. Gbagbo est rentré, je crois que cela devrait en principe favoriser ce processus qui était déjà engagé.
D'accord. Alors, Bangali Ngoran, pensez-vous que le trio Ouattara, Gbagbo, Bédié pourrait se lancer dans un processus de réconciliation ou même de rapprochement?
Oui, aujourd'hui, c'est l'étape suivante que tous les Ivoiriens appellent depuis leur vœu. La possibilité existe à partir du moment où, au-delà, je dirais, des enjeux de 2025 qui, bien sûr, le divise. Il y a cette idée qu'on puisse prendre une mesure pour fixer une limitation de l'âge des candidats aux élections présidentielles. Alors, je pense aujourd'hui, si nous évoluons vers cette idée, et que la mûrie qu'elle a acceptée par tous, eh bien, cela va avoir au moins le mérite de créer une sorte de distance, une distance de principe de ces trois acteurs-là, du fauteuil présidentiel, donc à un peu pacifier leur relation. Mais tant qu'il y aura toujours ces trois acteurs engagés en tant que candidats ou candidats potentiels pour le fauteuil présidentiel, il est clair qu'il y aura toujours, il sera toujours mis en avant dans leur relation. Le fait de poser un acte va dans le sens de renforcer leur chance d'accéder à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de rapprocher les trois hommes si on parvient à un accord, je dirais, pacifique sur le fait que les trois doivent se retirer. Et donc, continuer toujours de cadrer leur parti et faire en sorte qu'il y ait de nouvelles élites qui émergent au sein de leur parti, mais en tant qu'anciens leaders qui ont déjà fait toutes les preuves, il faudrait qu'ils se retirent. Donc, pour moi, aujourd'hui, la seule chance pour qu'il y ait des relations pacifiques entre ces trois-là, c'est qu'ils forment un club, je dirais, d'anciens dirigeants, une sorte d'association d'anciens dirigeants, et qui se mettent un peu à l'écart mais surtout au-dessus des
identités. D'accord. Alors, Monsieur Fofana, j'espère que vous êtes de retour avec nous. Alors, sans forcément vous demander l'avis, disons, la position officielle du RHDP, mais vous pensez qu'une alliance politique entre Ouattara et Gbagbo est possible? Je crois qu'on l'a perdu, malheureusement. Je vais poser la même question peut-être à Nyaka. Avant justement, une alliance, c'est possible ou pas? Une alliance entre Ouattara et Gbagbo?
Bon, moi, je pense que il y a ce que le, je ne sais pas si c'est le maire, M. Fofana, qui est intervenu.
Malheureusement, on a quelques soucis avec lui. Et il aura l'occasion de répondre. Oui, allez-y.
Oui, mais tu vas dire que j'ai un. Alors, je peux continuer?
Allez-y.
Voilà, donc je disais que il avait donné, j'ai cru entendre de très bonnes choses dans son intervention. Mais je pense qu'il ne faut pas voir là où nous sommes arrivés. Je pense que il faut pas voir cela en termes de alliance Gbagbo Ouattara. Mmh. Je pense que le temps des petits jeux là est passé. Et ça, je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux. On a vu cela depuis, ça fait 30 ans bientôt, où Bédié et puis Ouattara sont en alliance contre Gbagbo. Après Gbagbo Ouattara en alliance contre Bédié. Bédié Ouattara contre Gbagbo. Et puis maintenant, on va parler d'alliance entre Gbagbo et puis Ouattara. Je pense que le temps des petits jeux là, doit être terminé. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut aller à une véritable réconciliation. Cela est de la responsabilité des trois leaders, parce que hier, leur mésentente a entraîné la Côte d'Ivoire dans un cycle permanent de crise politique et de violence. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller dans la logique de la politique politicienne des petites manœuvres où deux se mettent contre un. Il est de la responsabilité politique du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, de comprendre que ou bien il s'engage encore dans une logique de confrontation et on va avoir un autre cycle de violence, et c'est à lui de faire en sorte que les trois se rencontrent afin que la Côte d'Ivoire puisse négocier un nouveau contrat social afin de passer à une véritable conciliation des positions, pour une véritable réconciliation des cœurs et pour une réconciliation des esprits. Sinon, si on rentre dans deux contre un, je pense qu'on n'aura pas tiré la leçon de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
D'accord. Et Alexis, qu'est-ce qui, selon vous, va changer dans la configuration politique en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de Laurent Gbagbo? Pour les législatives, par exemple, on avait vu une alliance FPI-PDCI. Qu'est-ce qui peut changer?
Je crois que le FPI a besoin d'un leader. Jusque-là, ce leader a manqué depuis que M. Laurent Gbagbo a été...
Il a repris son rôle de leader, j'imagine, non?
Il est revenu. Il n'a pas encore donné la pleine mesure de ses responsabilités. Il a demandé qu'on lui laisse le temps de faire ses deuils. Et actuellement, en train de rencontrer ses parents, il est revenu. Je crois qu'il va prendre le pouls de la situation et s'engager pleinement. Le problème qui reste aujourd'hui, est-ce qu'il faut le faire avec la sincérité du cœur? Depuis les 30 dernières années qu'on a connues, les trois se sont parlé, se sont rencontrés très régulièrement. Mais vous savez, la sincérité, la bonne foi a manqué dans les différents discours qu'on a eus. C'est ce qui nous a ramenés dans la crise et nous a fait perdurer la crise. Aujourd'hui, si on tire leçon de ce qui s'est passé durant ces 30 années, surtout le pic de 2010-2011, les uns et les autres devaient revoir leur position, penser à la Côte d'Ivoire, penser d'abord au bien-être des populations que chacun prétend, c'est pas pour gouverner, chacun prétend diriger, pour dire aujourd'hui on a assez fait, on a détruit la Côte d'Ivoire, il est temps qu'on s'entende, il est temps qu'aujourd'hui on passe sur de nouvelles bases pour donner le bonheur aux Ivoiriens. C'est tout ce qui laisse la bonne santé.
Alors, voici à présent quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est à N'Djamena. Il nous dit que la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire avait besoin d'un élément crucial qui est le retour au bercail de Laurent Gbagbo et ses alliés. Ce retour marque le début d'un vivre ensemble entre deux camps politiques influents condamnés à vivre dans un même pays où la paix et le développement socio-économique sont essentiels. Eric Tiasuma est en RDC. Il dit « La paix et la stabilité politique de la Côte d'Ivoire passent par la réconciliation de tous les Ivoiriens ». Mais avec la condamnation de Guillaume Soro et autres, il n'y aura pas de stabilité politique ni la réconciliation nationale dans le vrai sens. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Seconde partie de Washington Forum. Avant de poursuivre la conversation avec nos invités, je vous propose ce micro-trottoir réalisé par Yacine Sio dans les rues d'Abidjan sur ce que pensent les Ivoiriens du concept de la réconciliation dans leur pays. Écoutez.
Oui, je pense que le retour de Gbagbo va faciliter la réconciliation. Et il faut savoir aussi que ça dépend des leaders politiques de la Côte d'Ivoire parce que c'est eux qui doivent vraiment apporter le mot de paix. Parce que nous ne sommes que des partisans. Chacun a son parti. Mais c'est eux qui doivent s'asseoir pour envoyer la réconciliation. Parce que si aujourd'hui tout ça est arrivé, c'est grâce à eux. Nous ne sommes que des partisans. Chacun a son parti politique, c'est vrai. Mais le retour de Gbagbo aussi, ça fait que nous sommes heureux. Ça peut nous amener à la paix, je pense. Ça peut nous amener à la paix. Et puis on tient à féliciter aussi le père qui a facilité son arrivée. Donc, sans lui, Gbagbo n'allait pas rentrer. Bon, c'est un fils du pays. Il est rentré, mais on pense que ça va arriver. Un peu la réconciliation va arriver.
Oui, le retour de Laurent Gbagbo va faciliter cette réconciliation parce que ses partisans n'étaient vraiment pas contents le jour où on l'a arrêté. Et je pense que ça va apaiser les cœurs. Et il y aura une paix. Une paix, en tout cas, en Côte d'Ivoire.
Le retour de M. Laurent Gbagbo doit favoriser la réconciliation. Laurent Gbagbo, il est ivoirien. Il a fait 10 ans à l'extérieur du pays. C'est vrai qu'il y a eu une crise, mais aujourd'hui, son retour, je pense que si les trois leaders en Côte d'Ivoire se donnent les mains, je pense que ça va favoriser la réconciliation.
Le retour de Gbagbo va faciliter la réconciliation parce que c'est la joie de tout un chacun. Voilà, pour un retour d'une personne dans son pays, ceci aussi, c'est la joie de tout le monde en fait. Un souhait, c'est de vouloir que la paix soit capitale, quoi. Donc, je crois que bien, oui, c'est ça.
Avant le retour du Gbagbo, il y avait la paix ici, il y avait la réconciliation. Mais je pense qu'à son arrivée aussi, il y aura la paix, la réconciliation. Je pense que c'est bien.
Oui, je pense que le retour de Laurent Gbagbo peut favoriser la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'explique. Gbagbo est un homme populaire. Que tu veuilles ou pas, il est aimé. Donc on est obligé de suivre l'image là pour entrer ensemble, pour qu'ensemble on soit un. C'est important, c'est ce qu'il faut regarder. C'est quelqu'un qui est beaucoup aimé. Que tu veuilles ou pas, il est aimé. Donc quand c'est comme ça, il faut entrer dans l'image et puis gagner le cœur de tout le monde. Mais si tu sors de l'image là, tu deviens l'ennemi. Oh, c'est pas bon. Personne n'est ennemi en Côte d'Ivoire. On est tous fils du pays. On est tous fils du pays. C'est le pays qui s'occupe de nous. Donc on est obligé de s'aimer. Donc pour moi, la manière que Gbagbo est rentré là, on peut suivre ça et puis créer la réconciliation. Ça marche. Ça marche.
Beaucoup, beaucoup d'espoir dans les rues d'Abidjan. Je rappelle mes invités à Abidjan maintenant au téléphone. Bema Fofana, député maire adjoint de Boaké. Et sur Skype, toujours dans la capitale économique ivoirienne, Bangali Morand, professeur d'histoire politique et analyste politique, toujours à Abidjan, Alexis Talon, journaliste, analyste politique, et juste à côté à Accra, Nyaka Lagoké, enseignant ici aux États-Unis et analyste politique. Alors, Bangali Ngoron, les Ivoiriens célèbrent une sorte de trêve politique avec le retour de Laurent Gbagbo, mais en l'absence quand même de Guillaume Soro, condamné par contumace, obligé de vivre en exil. Vous pensez que ça aura un impact dans l'échiquier politique ivoirien?
Oh, l'impact, c'est...
Là, je crois maintenant qu'on a quelques soucis avec M. Ngoron. Alors, M. le maire, nous vous avons maintenant au téléphone. J'aimerais bien avoir votre avis sur une éventuelle alliance entre le RHDP et le FPI de Laurent Gbagbo avec son retour. Sans forcément vous demander l'avis officiel de votre parti, mais quelle est vous votre appréhension?
Non, mais nous, on a déjà vécu cette expérience dans le Front républicain, avoir une alliance entre M. Ouattara et M. Gbagbo. Et en politique, on ne dit jamais, mais je ne pense pas que ça soit aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui une priorité pour le RHDP. Et je pense que, comme je n'ai pas eu la possibilité de me prononcer sur l'arrivée de Laurent Gbagbo, je voudrais profiter.
Allez-y.
Comme tout Ivoirien, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a donné le feu vert, il a pris toutes les dispositions pour que Gbagbo puisse rentrer chez lui. Et Gbagbo, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que c'est d'élever le débat. le niveau du débat politique et que chacun travaille à l'enracinement de la démocratie. Et je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut que tous sur les trois grands et les trois supposés grands se retrouvent pour détruire la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut les encourager chacun à mener le combat démocratique.
Sinon, il n'y aura plus d'opposition.
Non, il faut qu'il y ait de l'opposition. Oui. Nous sommes des démocrates, nous sommes en démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons qu'il y ait une opposition responsable et que Gbagbo est rentré et qu'il s'attelle à prendre la tête de son parti, à mettre ses partisans ensemble et à les mettre dans la marche pour la conquête du pouvoir comme tous les autres partis politiques. Et je pense que le seul baromètre qu'on a pour juger la popularité des uns des autres, c'est les élections. Et les élections, c'est pour bientôt et chacun doit travailler vraiment à élargir sa base au niveau du RDP, au niveau du président de la République.
C'est d'accord. D'accord, on va aller peut-être très vite là. Niaka, justement, c'est vrai, on vient de sortir d'un cycle électoral. Alors, pour un climat politique apaisé, faut-il déjà poser sur la table des questions polémiques comme la réforme de la commission électorale indépendante au lieu d'attendre encore la veille des prochaines grandes élections?
Bon, moi, je vais être très bref. Comme nous sommes à la fin de l'émission, je pense que avec l'intervention, je crois, de Fofana, on se rend compte qu'au niveau du RHDP, ils ne sont pas assez sérieux sur le problème de la réconciliation. C'est l'élection qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire en 2010. Et on sait ce qui s'est passé avec l'élection de 2020. Donc, la vie d'une nation comme la Côte d'Ivoire, qui a souffert pendant 30 ans, ne saurait se résumer à une question d'élection. Il faut poser les questions fondamentales au-delà de la question de la commission électorale. Les questions fondamentales, je vais vous donner quelques-unes. La première question, qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien? Et puis la deuxième, c'est quoi la Côte d'Ivoire? Quelle est la responsabilité?
Vous ne voulez pas reposer la question de l'ivoirité quand même?
Non, écoute bien. Il faut écouter.
Oui, je vous écoute. Je pose la question.
Voilà, il faut écouter. La Côte d'Ivoire a souffert à cause de l'ivoirité et à cause de la Charte du Nord. Tant qu'on n'a pas posé, on n'a pas tranché ces questions, on va encore revenir avec les mêmes crises. Je ne suis pas ivoirité, je suis panafricaniste, je suis contre l'ivoirité et je suis contre la Charte du Nord. Mais tant que les Ivoiriens n'auront pas répondu à ces questions, afin d'avoir une idée du mieux vivre ensemble, on va répéter le même cycle de violence. Voilà ce que je voulais dire.
D'accord. Alors Alexis, si des consultations sont lancées sur, par exemple, le processus électoral, sur quoi ces consultations doivent porter, ces négociations, ces discussions?
Vous savez, il y a eu plusieurs questions qui avaient été soulevées pour avoir des élections transparentes, des élections inclusives et libres. D'abord, permettre la révision de la Constitution, la dernière mouture qui avait été faite par le président, avait été largement contestée par son opposition, qui avait instauré le parrainage, qui est considéré comme arbitraire dans un processus démocratique. Il y avait la question du nettoyage des listes électorales. La question également du découpage électoral. Il y a autant de haies pour finir avec la composition de la CEI qui était considérée par l'opposition comme majoritairement pro-parti au pouvoir. Donc ces questions n'ont pas été vidées avant qu'il y ait eu l'élection d'octobre 2020. Je pense que pour aller dans des conditions transparentes, dans des conditions libres et ouvertes à des élections qui vont épargner la Côte d'Ivoire d'autres crises, d'autres violences qu'on a connues en 2010 et en 2020, il faut que ces questions soient définitivement réglées. Une fois que c'est réglé, je pense que les Ivoiriens pourront se parler.
D'accord. Bangali Ngora, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour un processus apaisé? Rapidement.
Pour un processus, aujourd'hui, il faut clairement, mettre en place une CI qui soit composée des différentes qui reflètent en tout cas la composition, la configuration du jeu politique ivoirien.
D'accord. C'est important. Merci. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Je n'oublie pas, bien sûr, toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.